Campus Bordeaux.
Sport Campus, 13h-14h, avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa.
Bonjour à toutes et à tous, on est mercredi, ce qui veut dire que vous êtes à l'écoute de Sport Campus étant donné qu'il est 13h et il s'agit de la première émission de cette nouvelle année 2023. On vous souhaite une excellente année à toutes et à tous et on va démarrer ce Sport Campus sur les chapeaux de roue tout de suite avec Alain. Salut Alain.
Salut.
Comment tu vas cette nouvelle année?
Je change? Non.
Peut-être tu peux choisir un nouveau terme, je sais pas.
Top.
Cette année, Alain est au top, toujours au rendez-vous, et on accueille aussi Nicolas Loubert. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Comment vas-tu?
Nickel.
Nickel. Et c'est toi qui reprends le flambeau du nickel, et on accueille aussi Louis. Salut Louis.
Salut.
Et alors, pour nos invités du jour, aujourd'hui, nous recevons en direct Romain Ménil, perchiste, multiple champion, multiple record. Bonjour à vous, comment allez-vous?
Bonjour, je vais très bien, merci.
Et vu que c'est une émission un peu spéciale thématique Jeux Olympiques, on accueille aussi Claude Darioren, un habitué maintenant de Radio Campus. Bonjour Claude.
Bonjour.
Et alors on va parler donc de la perche, ce sport qui est assez plébiscité mais qui est aussi méconnu par bien des aspects. Et je te laisse tout de suite démarrer l'émission Alain.
Avant de démarrer l'émission, j'aimerais faire un hommage à Philippe Rouillet, lui dédier cette émission parce qu'il est parti un petit peu trop tôt. Après avoir reçu Julie Bonin, que je salue, la sympathique et jolie Julie qui était venue. J'ai voulu aller encore plus haut pour Radio Campus. Et par l'intermédiaire de mon ami Claude Ayoren, j'ai pu avoir aujourd'hui, pour mes auditeurs, Romain Ménil. Alors, on va essayer de faire l'émission en deux parties. C'est là qu'on va parler de Romain, de sa carrière. Et puis après, en deuxième partie, tu nous parleras un petit peu des JO, de ta vision, de ton après-sport.
Ok, avec plaisir.
Voilà, et pour le présenter, je dois dire que j'étais un petit peu dans son CV. J'ai cramé 3 cartouches noires et 2 cartouches rouges pour imprimer tout ce qu'il a fait. Parce que c'est énorme. Non, au niveau national, je crois que tu as 3 titres en salle. Tu en as 7 en plein air.
C'est ça.
C'est ça. Mmh. Plus pas mal de 2e, 3e, 4e place.
Oui, après les championnats de France, il y en a beaucoup. Hein. On est beaucoup, donc c'est vrai que ça fait pas mal de titres, parce que ma carrière était assez longue.
Au championnat du monde, il fait 2 fois 2e.
Oui, médaille d'argent.
Pouli d'or de la perche.
C'est ça, ouais, a réussi encore à attraper l'or. Mais... Moi, je dis encore, mais il me reste beaucoup d'essais.
C'est perdu maintenant, quoi. C'est fini.
Pour la perche, c'est perdu.
Tu as eu beaucoup de places de finaliste aussi. Tu as été 1 fois 2e au championnat d'Europe. Mm. Tu as été 2 fois 1er en Coupe d'Europe.
Exact.
Ouais. Tu as fait 2e au décanation.
Oui, compétition par équipe. Ouais.
Tu fais 4 JO.
Oui.
Sydney, Athènes, Pékin et Londres.
C'est ça. Donc tout 2000, de 2000 à 2012. Ouais.
Et tu culmines à 5m95, c'est ton record. Alors oui. Je vais te poser une question. Quand tu fais tes 5m95, ça j'ai pas réussi à me renseigner, c'est toujours le record de Bucca, 611 qui tient ou pas?
Alors non, le record du monde a été bien battu. Alors moi, quand je faisais 95.
Quand tu fais 95,
Oui, quand je fais 95, oui, c'était Boupla qui avait.
C'est toujours les 6m11.
Ouais, c'était les 6, 11 et 14 en plein 14 en salle et 6, 11 en plein air à l'époque. Donc effectivement, j'étais à quelques. Voilà, un peu plus d'une dizaine de centimètres de ce record du monde, ouais, mais qui était difficilement atteignable.
Ouais, mais à l'époque, moi je me souviens quand tu passes les 5,95 pour la perche française, c'était énorme, quoi.
Oui, je suis devenu le deuxième performeur français de tous les temps à cette époque-là, et j'étais le numéro 1 mondial sur cette année-là, c'était en 2003, donc ça remonte un petit peu, mais c'est vrai que j'étais le numéro 1 mondial par 2 fois, une fois 92, une fois 95. Mmh. Donc c'est l'année où j'ai pas été battu en nombre de centimètres.
Bon, en fait, avec 5,95, c'est dans les 10 mondiaux, quoi. Tu restes des années dans les 10 mondiaux avec ça?
De tout temps?
Pas de tout temps.
Hein, non, oui, en général, oui. À plus de 90, on est même dans le top 5 mondial. Hein,
oui, on est dans le top 5, c'est ça. C'est parce que Lavinelli a mis du temps. Elle est passée, les 5,95, bien.
Ah, il a mis du temps, en fait. Renaud Lavinelli est arrivé un petit peu plus tard, assez tard, on dirait. Enfin, il est arrivé bon vers 24-25 ans, là où en général, on arrive plutôt vers 22 ans. Mais, et après, par contre, il a tout dépassé parce que lui a battu le record du monde de Sergei Bucca.
600, je crois, la Vinedi, c'est ça ?
C'est 615.
615.
Ouais, exactement. Et après, il a été rebattu, 616 Renault, et après, il a été rebattu derrière par Mondo Duplantis, un Suédois, un Américain suédois, qui lui est à nouveau quelqu'un de stratosphérique.
621 non. C'est ça ?
Je me rappelle plus.
Ouais, c'est 621, je crois.
J'ai un doute, j'ai bien suivi.
Ça fait trois étages, quoi.
Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut aller encore plus haut, ouais. Hein, très jeune.
Ça veut dire que s'il a oublié ses courses en bas, il passe directement par le balcon, il ne prend pas la.
C'est ça.
Pourquoi se casser la tête quand on perd ses clés, on peut sauter, puis c'est bon.
Pourquoi faire ?
Donc, on est tous au deuxième étage, facile.
T'as démarré la perche à quel âge alors ? C'est ton premier sport ?
C'est mon deuxième sport. J'ai commencé assez tard sur la perche. L'athlétisme, j'ai commencé assez tard. Je faisais de la gymnastique avant. Donc voilà, gymnaste. Mes parents m'ont amené à la gym parce que j'étais un peu. Je les fatiguais. Donc ils se sont dit, il va se défouler à la gym. Et puis après, j'ai connu le saut à la perche par hasard. C'est un copain qui m'a proposé d'essayer. Et donc moi, j'étais à Albi. Dans une petite ville du sud-ouest, enfin une ville moyenne du sud-ouest. Et je suis allé, j'étais à la gym, on a traversé le campus de sport pour aller essayer le saut à la perche. Donc voilà, j'ai fait un petit sprint et puis ensuite ça m'a pris tout de suite. Et puis j'ai très rapidement, en fait, je me suis trouvé à l'aise avec ce sport.
Et tu as fait presque, j'ai regardé ton CV, tu es resté à Bordeaux quasiment la grande partie de ta carrière, non ?
Eh ben, finalement, oui. C'est ce que je me dis. Je suis plus maintenant, je suis plus bordelais que albigeois ou toulousain.
Ça s'entend pas.
Ça s'entend pas. Ouais, non, c'est vrai que j'ai gardé. Mes parents sont originaires de Paris et j'ai vécu toute ma jeunesse à Albi. Donc j'ai pris aucun accent. C'est assez curieux. Et effectivement, je fais ça. J'ai fait mes études à Toulouse. Et quand j'ai fini mes études, je suis allé m'installer ici sur Bordeaux pour m'entraîner avec un groupe de saut à la perche qui était leadé par Georges Martin.
Georges Martin.
Voilà, ouais. Salut. Donc un grand entraîneur de perche qui a entraîné.
C'est lui qui a fait ta carrière, quoi, en fait. Toute ta carrière.
Et c'est lui qui a fait une partie de ma carrière avec mon premier entraîneur Bernard Astoul à Toulouse. J'ai quand même fait 5m93. Hein. J'ai fait ça à 22 ans, donc très jeune. Et ensuite, avec Georges, je suis allé plutôt chercher les médailles en grand championnat.
Et ça décolle à quel âge alors ta carrière au niveau ?
Alors, elle décolle pendant mes études à très haut niveau. C'est-à-dire que je suis rentré moi en école d'ingénieur en tant que sportif de haut niveau, donc avec un petit aménagement d'horaire. J'ai fait mes deux années de prépa plutôt normal. Et puis en troisième année, c'est là où j'ai commencé à exploser. En fait, d'un coup, j'ai eu un déclic technique principalement, peut-être un peu mental aussi. Hein. Et je suis passé d'une performance de 5m40, qui est une performance d'un bon niveau national, à 5m80, qui m'a mis dans le top 10 mondial.
Et c'est quoi ce déclic technique alors ? Quand on parle de déclic technique.
Ah, il y a des techniciens qui nous écoutent.
Je ne sais pas.
Non,
peut-être.
En fait, quand j'ai commencé le saut à la perche, vu que j'ai commencé tard, j'ai eu du temps à m'adapter à la technique. Et en fait, j'avais du mal à vraiment mettre la tête en bas et les jambes en l'air, voilà, pour exprimer. Et je le faisais, mais pas dans le bon timing. En fait, la perche, c'est comme un ressort. On met plein d'énergie dans la perche, le ressort se plie, et ensuite, une fois qu'on a décollé, il faut bien se positionner dans la perche pour être envoyé le plus haut. Et pendant mon début de carrière, je n'arrivais pas à bien faire ça, même si j'étais un ancien gym. Et donc, le jour où j'ai compris ce déclic technique, donc c'est mon entraîneur Georges Martin qui me l'a donné, et bien ensuite, c'est parti, j'ai gagné 40 cm d'un coup. Voilà. Juste le fait d'avoir les épaules et la tête en bas.
Les 40 cm, ils sont donnés par la perche. C'est la perche qui restitue ces 40 cm, on va dire, enfin, qui
t'a permis. Ouais, disons qu'avant, elle me renvoyait plutôt vers le fond du sautoir, donc vers l'avant. Et quand j'ai trouvé cet aspect-là, il m'a renvoyé vers le haut. Donc en fait, les 40 cm viennent de là. Ouais.
C'est hyper technique la pêche. C'est pas qu'un sport d'impulsion, il faut avoir vraiment de la technique. On voit les gars quand ils sortent dessus de la barre, comment ils enroulent, comment. Non
ouais, c'est un mélange de gym et d'athlétisme. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai excellé quelque part. Je venais de la gym, j'avais quand même quelques aptitudes athlétiques. Donc c'est vrai que c'est ce mix-là qui fait tout l'intérêt et ce côté acrobatique. Des fois, on parle un peu de cirque.
Un saut à la perche, ça se décomposerait en combien de temps ou de séquences ? Donc la course et puis.
La préparation d'abord, ouais, parce qu'on les voit bien se préparer.
Oui, bien sûr.
Oui, alors la préparation, chacun a son petit tic. On met de la magnésie ou de la colle sur la perche. On choisit ses perches. La perche est plus ou moins dure. Hein,
de la colle,
de
vous mettez de la colle
Moi, j'ai tout mis, suivant les périodes. Mais on peut mettre une espèce de colle de résine, la même résine que pour le handball.
Et si tu restes collé à la perche quand tu es en haut, tu fais comment?
Ouais, c'est arrivé où on a du mal à la lâcher, mais elle finit toujours par se lâcher. Une perche, ça fait 3 kilos, donc quand on la jette, elle finit par partir quand même. Donc il y a une phase, en fait, la phase où on va prendre l'énergie, qui est la phase de course. Donc là, évidemment, la vitesse est très importante, hein, parce que c'est le carré de la vitesse qui fait l'énergie. Donc on met l'énergie dans la course en étant bien positionné. Et donc ça, c'est la première phase. Très importante. Ensuite, il y a la phase critique du décollage. C'est là où on transmet l'énergie dans la perche, donc en mettant une impulsion avec les bras bien vers le haut. Et là, là, ensuite, maintenant qu'on a décollé, deuxième phase, c'est la phase de l'ascension, je dirais, où la perche fléchit et là où on doit positionner notre corps dans l'espace, justement, avoir bien les jambes en l'air et bien la tête en bas, et où on va se faire renvoyer par la perche, donc troisième phase. Et ensuite, la quatrième phase, c'est la phase du franchissement de la barre, qui est très importante aussi parce qu'un saut peut mal partir et si on arrive à bien éviter la barre, ben on s'en sort. Et des fois, un saut peut être très bon, mais on est un peu inattentif et puis on peut la toucher avec un bras, un pectoral ou n'importe où.
Et est-ce qu'il y a une appréhension avant le saut, avant de sauter ?
Oui, ça peut arriver, suivant les périodes, suivant ce que l'on a vécu. Quand on doit être performant, comme dans tous les sports, il faut être à 100% de sa confiance. Donc, ce qui fait la différence entre un très grand sauteur et un grand sauteur, c'est la confiance qu'on va mettre dedans. Donc, quand il y a de l'appréhension, il va falloir, avant de partir, il va falloir un peu l'oublier pendant la course et surtout l'oublier pendant le décollage. Mais oui, parce que c'est un sport qui reste à risque à partir du moment où on passe de 30 km/h à zéro en quelques secondes, que toute cette énergie est dans de la fibre de verre, hein, qui fait 5 mètres de long, mais dans la fibre de verre.
Qui peut se casser en plus.
Qui peut se casser. Et puis cette énergie, elle nous renvoie. Et elle nous renvoie, si on fait des erreurs techniques, elle peut nous renvoyer en dehors du sautoir. Et donc se faire très mal. C'est un sport où il y a eu quand même quelques graves accidents, dont quelques morts, ouais, malheureusement.
Elles sont faites en quoi, les perches ?
Fibre de verre. Fibre de verre.
Toutes les perches.
Toutes les perches, fibre de verre. Il y a eu une évolution dans les perches. Au début, c'était des bambous.
Oui, voilà ce que j'allais dire, parce qu'à l'époque, c'était pas ça du tout.
On appelle perche rigide, donc d'abord le bambou, et puis je pense que c'est dans les années 40-50, on est passé à des perches en aluminium, donc des perches donc, assez lourdes, et toujours pas de flexion. Et puis ensuite, il y a eu la révolution, la découverte de la fibre de verre, et donc là, ça a changé complètement le sport. Le sport est vraiment devenu complètement différent, même les gabarits des perchistes a changé et voilà. Moi j'ai connu que la fibre de verre, hein, évidemment, parce que la fibre de verre est arrivée dans les années 60 et la perche française a excellé à cette période là parce que c'était tout nouveau, là où c'était dominé par les Américains à l'époque, au niveau de la transformation de la fibre de verre, les Français ont été très bons. Je pense qu'on a toujours ce petit talent en France de bien aimer découvrir les nouveautés aussi dans les sports extrêmes. Et comme ce sport est un peu entre les deux, avec la fibre de verre, on a développé une école de perche et qui a amené des grands champions, des champions du monde, champions olympiques et jusqu'à la Villeneuve maintenant.
Alors, j'ai envie de te demander, quand tu passes les 5m95, quand tu es au fur et à mesure de ta carrière, là, les spécialistes à l'époque disaient Romain Ménil, il n'exploite pas tout ce qu'il peut faire. Parce que quand tu abordes les grands championnats, les JO, où, mais c'est pas dire que c'était une grande réussite parce que t'as pas fait le podium. Les champions du monde, tu fais second. Les champions d'Europe, bon, une fois champion d'Europe. Mais tous les spécialistes à l'époque disaient que tu pouvais aller faire beaucoup mieux. C'est quoi ? C'est ce que tu nous as parlé tout à l'heure, cette appréhension que tu n'arrivais pas à gérer. C'était peut-être le stress parce que tu avais cette étiquette de 5,95 favori. C'était quoi ?
Alors, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il y a plusieurs choses. Moi, je suis arrivé assez tard, donc j'ai un petit peu rattrapé mon retard dans le saut à la perche. Donc, il m'a manqué toujours un petit retard. Ensuite, dans mes défauts, j'étais un perchiste très lent. Donc, dans tous les stages, que ce soit des stages régionaux, des stages nationaux ou internationaux, j'étais le plus lent dans la course. Et donc ça m'a mis quelque part un petit peu en dedans et je me sentais inférieur aux autres. Donc, ça m'a mis un petit peu une barrière. Et puis, je vous dis, l'énergie qu'on met dans la perche, donc la hauteur que l'on met en place, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc c'est important. Par contre, j'ai développé une technique qui m'a permis de compenser ça. Donc très rapidement, on s'est dit, bah, tiens, Romain Ménil, il peut battre le record du monde, etc. Bon voilà, c'est tous les espoirs, les médias qui disaient ça. Bon, il y a une chose, après on a des qualités, des défauts. Et donc quand j'ai explosé assez tôt, mais il y a eu toute une phase, j'ai eu différentes phases dans ma carrière, j'ai toute une phase dans ma carrière où j'ai décidé de me mettre à 100% dans le saut à la perche, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mes études, j'ai décidé de ne pas travailler, je me suis mis à 100%. Et en fait, là, je ne l'ai pas compris tout de suite, hein, je l'ai compris très tard. Donc ce que je vous raconte là, je l'ai compris très tard, voire à la fin de ma carrière. Dans cette période-là, le sport est devenu professionnel pour moi. Et donc c'était ce changement où c'était devenu un exutoire par rapport à mes études et se transformer avec des obligations quelque part professionnelles. Et sans m'en rendre compte, en fait, je l'ai mal géré, donc je ne me faisais pas suffisamment plaisir à certains moments. Je m'éclatais à l'entraînement, j'étais content de partir partout, mais il n'y avait pas cette explosion liée à ça, ce qui fait que dans toute cette phase de ma carrière, effectivement, quand les enjeux devenaient très importants, je n'arrivais pas à franchir le pas et j'étais plus moi-même. Et c'est quand je me suis mis à retravailler. J'ai décidé, au bout de 4 ans, après les Jeux Olympiques d'Athènes, en 2004-2005, j'ai décidé à travailler à temps partiel. En plus, j'avais un enfant. Et là, comme par hasard, c'est la période de ma carrière où j'ai eu toutes mes médailles. Où, en fait, j'ai fait ce qu'on attendait de moi.
C'était plus mental, parce que je me souviens en 2003, quand tu passes tes 5,95, notamment au championnat du monde. Je crois que c'était un Italien à l'époque qui est champion du monde avec 5,80 m. Alors que toi, tu avais un record à 5,95.
Oui, alors Gibilisco fait champion du monde avec 90 hein, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que alors, ça, c'est une blessure qui est très difficile pour moi parce que c'est championnat du monde à Paris. J'étais au top niveau, j'étais numéro 1 mondial. Donc j'étais imbattu en compétition internationale.
Invaincu, je crois.
Invaincu, oui, plutôt.
Invaincu, j'ai dit quoi ?
Imbattu.
Imbattu,
pardon. Non, mais ça peut exister, ça peut exister.
C'est vrai aussi.
C'est l'erreur du nouvel an. Il n'y a pas les une, elle est là, elle est dans les posées.
Les néologismes de 2023.
Il reste quelques vapeurs du nouvel an. Donc invaincu, effectivement, et en fait j'avais l'habitude cette année-là de commencer très haut mes compétitions, j'avais décidé de commencer très haut la compétition des championnats du monde, et là l'encadrement a fait une erreur, une grave erreur. L'encadrement, pas mon entraîneur, mais l'encadrement technique national de la fédération a fait une grave erreur, pour moi c'est une vraie erreur professionnelle, m'a mis le doute en me demandant de ne pas commencer à cette hauteur-là. Alors que j'avais commencé toute la saison, j'avais commencé à 5,70 et en général, les perchistes commencent plutôt à 5,50. Donc moi, j'avais choisi de commencer à 5,70 le concours de qualification. Et trois jours avant, quand j'avais annoncé ça à la presse, tout le monde m'a sauté dessus. Dont l'encadrement technique, il m'a dit bah, « Romain, t'es sûr de vouloir faire ça? C'est dangereux ?» Et c'était un choix que j'avais fait avec mon entraîneur et mon préparateur mental. Donc,
c'était Georges Martin.
Ouais. Et j'étais en pleine confiance. Et jusqu'au pied du sautoir, pendant la compétition, on est revenu me dire, sur le cadre technique national, ça demandé par le directeur technique national, Robert Poirier. Mais non, parce que c'est vrai que pour moi, c'est quand même c'est dommage. C'est un grand bonhomme, c'est quand un monsieur qui a fait de l'athlétisme à très haut niveau, mais a fait une erreur ce jour-là. Et m'a demandé au pied du sautoir, le concours commence. Juste avant de m'engager à 5,01, on l'a encore redit. Et là, j'ai perdu pied. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là.
Poirier, il a fait le malin.
Ouais, on peut le dire. Après, l'erreur est humaine, hein, mais en tout cas, j'en garde un amer souvenir. Mais ça fait partie de la vie. Après, j'ai rebondi.
Claude et Louis, après.
Oui, alors juste une question de Béotien. Est-ce que le saut à la perche, c'est juste un saut ou est-ce que c'est vraiment un franchissement d'obstacle? À savoir, si on te met une barre à 3 mètres avec une perche qui te permet de passer 5,95, est-ce que tu vas la passer, le geste technique sera le même, y compris fléchir et le franchissement, ou est-ce que l'obstacle, pour toi, c'est une cible qui te permet de l'atteindre, voire d'aller un peu plus haut, puisque tu dois passer au moins un centimètre de plus que la barre.
Bon, inconsciemment, on adapte notre saut à la hauteur quand même à franchir. Donc là, tu as parlé des extrêmes, hein, effectivement. La hauteur, non, normalement, on fait un peu abstraction de la hauteur, sauf que dans notre inconscient et notre vision périphérique, on voit la barre, on la ressent un peu. On ne la voit pas, mais on la ressent. Voilà. Par contre, quand on part et qu'on sait que mathématiquement il y a telle hauteur, dans la tête ça peut changer. Quand il y a 6 mètres, c'est une barre psychologique, les 6 mètres, et des fois on se sent trop petit, donc il faut avoir l'habitude de la passer. Voilà.
Louis, t'avais
Moi,
une question.
Moi j'avais une question justement, vous disiez qu'en 2003 vous étiez au summum, vous étiez premier mondial. Ma question c'est, est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez atteindre et vous vouliez y rester, ou est-ce que c'est arrivé comme ça et vous vouliez assumer le statut après?
Non, en 2003, j'ai clairement voulu l'atteindre avec mon entraîneur, mais c'est vrai que c'est une année où, jusqu'au championnat du monde où tout a été facile. C'est-à-dire que les planètes étaient alignées. Mmh. Et en fait, à un moment donné, quand tout est dans l'ordre, on a l'impression que c'est simple. Et alors, voilà, c'est facile à dire, mais c'est vrai parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière et puis les planètes s'alignent. Donc c'est une année où effectivement, je ne cherchais pas forcément à être premier mondial, je cherchais à progresser et puis ça a fonctionné.
C'est arrivé et vous, dans votre idée, vous avez dit « je vais y rester autant que possible » ou c'est juste vous assumer le statut?
Bah, en fait, l'échec de Paris 2023 a été très dur. Donc derrière, je me suis remobilisé.
Paris
2023,
tu reprends 2023,
tu la perche
encore, ouais. Paris 2003, on
et pourquoi
Paris
pas
2004.
Excuse-moi, je te marque à la culotte, mais c'est pour nos auditeurs hein, qui ne soient pas perdus.
C'est vrai, c'est bien. Donc en 2003, bah après il y avait les Jeux Olympiques à 2004, donc je m'étais planté au championnat du monde et je me suis tout de suite remobilisé vers les Jeux Olympiques de 2004.
Et quand on fait sa meilleure performance assez tôt finalement en 2003, donc 5,95 m, est-ce qu'après on court derrière? Est-ce que il faut battre ce 5,95 m coûte que coûte? Est-ce qu'on se met encore plus de pression? On sait qu'on peut y arriver, mais ça n'arrive pas en fait. Alors comment vous gérez ça?
C'est une très bonne question parce qu'en athlétisme, il y a effectivement deux choses. Il y a la performance qui nous marque. Hein, tu m'as présenté avec 5m95. Et puis, il y a les médailles. Et les médailles, souvent, on ne va pas forcément les chercher aussi hautes que le record. Quand il y a les deux, c'est mieux. Donc oui, après 95, j'avais en tête de faire 6 mètres. Mais mon premier objectif était d'être médaillé en championnat du monde.
On parle de championnat depuis tout à l'heure, mais on sait très bien que le championnat, ça ne fait pas vivre son homme. Ce n'est pas ça. C'est les meetings, en principe, qui vous permettent de gérer votre vie, on va dire ça, professionnellement. Et en meeting, tu as eu des performances assez élevées ?
Ben en meeting, j'oscillais entre 5m90 et 5m80. Après, en meeting, on en a plein. Donc, il y a des hauts et des bas. Hein. Des fois, on est premier, troisième, en fait. Et puis, quand on vit du saut à la perche, il y a effectivement un peu de tout. Les joueurs en championnat aussi, on peut gagner un peu d'argent. Et les grands championnats permettent d'être reconnus. Et en fait, on oscille entre des contrats d'image, donc de contrats d'image par rapport à l'image que met en place avec des partenaires comme les sponsors privés, des marques de sport, etc. Et aussi les primes qu'on peut gagner en meeting. Donc c'est un tout, hein, c'est une petite entreprise et on essaie de se diversifier.
Et comment t'expliques, alors, puisque tu viens de le dire, on revient un petit peu à ma question tout à l'heure, tu passais 5,80, 5,90 régulièrement en meeting et tu n'arrives pas à les passer en compétition officielle. C'est quoi ça? C'est la pression que tu t'es mise sur...
Il a répondu déjà, ouais. Je pense.
Oui, c'était dans ma première phase où effectivement j'avais du mal quand on attendait de moi quelque chose et que ça ne venait pas forcément de moi. C'était pas mon propre plaisir avant tout.
C'est-à-dire que
performance, c'est plaisir et travail.
Mais... Tu représentais le Dabro français et après tu représentais toi, quoi. Donc c'est peut-être pas la même,
oui,
la même approche.
Oui, c'est un bien grand mot, représenter le drapeau français, mais c'est vrai qu'on peut avoir une pression en disant oui, c'est le grand championnat, donc c'est ce jour-là que je dois être performant. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que aujourd'hui j'ai envie d'être performant et j'ai envie de faire quoi ? Et il y a tout ce travail-là, tout le travail aussi d'être dans le moment présent et pas se projeter sur l'avenir en se disant tiens, si je réussis, qu'est-ce qui va se passer ? Si je me plante, qu'est-ce qui va se passer ? Et l'apprentissage du sport de niveau, qui est un apprentissage pour la vie, c'est aussi ça, savoir vivre le moment présent quand c'est important. Et ça s'apprend petit à petit.
Parce qu'on est seul quand on est devant la barre, ouais. on est tout seul. Et c'est une lutte contre soi-même. Parce que vous pensez à quoi quand vous sautez ? Quand vous êtes prêt à vous lancer, à lancer votre élan, vous pensez à quoi ? Il y a quoi dans votre tête ?
Alors, quand j'ai battu mon record ou quand j'ai attrapé une médaille, en général, clairement, je pense à rien. Ou alors à un détail technique précis, un seul. Un seul que je dois corriger, que je dois améliorer pour franchir. Le plus souvent, c'est d'avoir un décollage très haut. Donc voilà, se focaliser. Soit des fois, il n'y a rien qui traverse l'esprit et on y va. Et quand il y a des choses qui peuvent traverser l'esprit, c'est se concentrer sur un détail technique qui va m'amener la performance.
Pourvu que je ne croise pas un drone.
Voilà, et jamais négatif. Mais bien vu.
Et en parlant de lutte contre soi-même, alors moi j'ai une question par curiosité. J'avais vu un documentaire avec Kevin Mayer qui est décathlonien. Et du coup, il y a le saut à la perche parmi les épreuves. Et à un moment, il n'arrive plus du tout à piquer. Et c'est impossible pour lui de sauter, il a un blocage. Et donc son entraîneur lui conseille de plus s'entraîner pendant un long moment et il verra bien le jour de l'épreuve. Bon, lui, il pouvait se le permettre, c'était une épreuve parmi tant d'autres. Et du coup, je voulais savoir ce que ça arrive aux perchistes d'avoir des blocages, des fois, de ne plus arriver à sauter.
Oui, ça arrive. Tous les perchistes ont eu des blocages. Je crois que peut-être seulement Renaud n'a pas eu de blocage, Renaud Avileni. Et ce qui prouve que Kevin Mayer est aussi un perchiste, d'ailleurs, décathlonien perchiste, parce qu'on a un blocage, parce qu'il peut y avoir de l'appréhension, parce qu'on peut se faire mal une fois, on peut être très proche de se blesser. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ce sport, c'est ce qui fait l'intérêt aussi que sans être le meilleur du monde, on peut quand même devenir champion du monde, parce que si l'autre a une appréhension et qu'on n'en a pas, on peut repasser devant. Voilà.
Est-ce que on arrive, donc lorsque tu performais, est-ce que tu arrivais à identifier le bon saut, le saut parfait, quand bien même tu avais passé une hauteur moindre ou je ne sais quoi, le geste parfait, puisque d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a plusieurs séquences, donc c'est une sorte d'histoire très, très 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 courte. Et est-ce que cette histoire, une fois que tu as repéré que c'est la bonne histoire, que c'est l'histoire parfaite, t'arrives à la reproduire et que cette histoire se termine toujours bien, c'est-à-dire je franchis la barre que je veux.
Ouais, c'est un peu l'objectif, c'est de faire toujours le même geste et juste. Ouais. Alors,
une espèce de boucle fermée.
Quand j'ai commencé la perche, je sortais de la gym. Et en gym, on apprend à faire une figure. Une fois qu'on sait faire la figure, on la reproduit et puis c'est toujours la même figure. Et puis c'est l'enchaînement des figures qui font la difficulté. Donc je me suis dit, le saut à la perche, ça va être pareil. Une fois que je vais apprendre la technique, je vais la reproduire à chaque fois. Et non, c'est toute une histoire, effectivement, parce que le moindre petit degré change complètement l'histoire et on est complètement en train de réajuster, de rattraper des petites erreurs. Donc le saut parfait, on se l'imagine, mais on ne le réalise quasiment jamais.
À ton époque, on parlait beaucoup de... Bon, il y avait Serge Bulka qui était avant toi. Hein. Un perchiste au niveau sponsor, est-ce que ça attire des sponsors? Ou alors, bon, maintenant, oui, Duplantis, je suis sûr qu'il vient le chercher tout seul. Mais à ton époque, est-ce qu'on pouvait compter sur un sponsoring sérieux, quoi?
Oui. Disons que dans l'athlétisme, si on parle sponsoring, le top, c'est le sprint et les 1500 mètres.
Ouais,
donc,
c'est ça.
Voilà, donc un bon athlète international a toujours gagne bien sa vie grâce aux sponsors. Ensuite, il y a l'autre série, c'est le saut longueur, effectivement la perche.
La longueur est vraiment la perche pour le...
Non, à peu près, à peu près au même niveau. En France, les gens aiment bien les perchistes, donc il y a ce petit côté un peu spectacle qui rajoute un petit peu. Mais je le mets plutôt dans cette stratégie. Et ensuite, il y a les parents pauvres. Dans le même sport, évidemment, c'est le poids, c'est le marteau.
Le marathon.
Le javelot. Non, le marathon, pardon, je le mets au niveau du 1500 mètres.
Ça marche bien, quand même.
Parce qu'il y a un vrai business pour vendre des chaussures au marathon, clairement. Donc il y a tout un business derrière. Donc là-dessus, le marathon, les gens se projettent, beaucoup de gens font de la course longue. Donc le marathon positionné comme le 1500 mètres et le 100 mètres.
Oui, parce que pour un sponsor, c'est compliqué de sponsoriser un perchiste pour mettre des pubs et tout. Parce que c'est ce qu'ils regardent, quoi, en fait. Je vois pas la Vinelli avec marqué chocolat Nestlé derrière. Et puis,
il avait marqué Michelin. Donc si, c'est, oui. Après, c'est des personnages, c'est des histoires, c'est des rencontres. Le partenariat, c'est pas seulement un affichage publicitaire. C'est une rencontre entre une entreprise et un athlète. Et il y a aussi tout le travail en fait, de communication interne qu'on fait pour une entreprise. C'est-à-dire qu'on va à des séminaires avec l'entreprise, on partage des expériences. Et c'est ça qui apporte de la valeur aussi au partenariat. Maintenant, il y a eu tout le changement avec les réseaux sociaux, où là, effectivement, il y a une valeur directe en tant qu'influenceur. Le sportif devient un influenceur avec un certain talent. Et ça aussi, maintenant, les sponsors regardent le nombre de followers, le nombre de posts et demandent sûrement des posts aux athlètes. Hein. Je ne connais pas les contrats maintenant. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, il y a cette évolution-là, mais il faut savoir que c'est très important. Et si je parle là, parce qu'on parle aussi de Paris 2024, donc pour sponsoriser les athlètes, je pense aux entreprises, vous pouvez sponsoriser les athlètes et pas forcément mettre un logo sur le maillot qui va être peut-être plutôt coûter plus cher, mais finalement faire intervenir le sportif en entreprise avec des clients pour partager son expérience. Et ça a vraiment de la valeur, et c'est vraiment une valeur aussi pour le sportif qui va partager des choses avec un entrepreneur et qui va pouvoir aussi apprendre de l'entrepreneur ou des managers ou de salariés.
Juste pour revenir sur votre carrière, on a pu constater que c'était un peu les montagnes russes avec des grands succès et aussi quelques échecs malheureusement. Psychologiquement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter avant 2013?
Oui. Après les JO, alors je venais d'être vice-champion du monde en 2007 et ensuite au JO 2008, je me plante. Donc derrière, oui, je me suis posé la question. J'avais 31 ans et je me suis dit, mince, c'est peut-être mes derniers Jeux Olympiques en 2008. C'est peut-être fini et j'ai eu un coup de mou. Et là, mon entraîneur m'a dit, écoute, prends un peu de recul et reviens. Si tu as envie de venir nous voir au stade, à t'amuser avec les copains, reviens. Donc c'est revenu un peu par le plaisir.
Mais vous avez eu aussi victime de quelques blessures, au mollet notamment. Comment on gère les blessures aussi? Parce que c'est une période où on est un peu éloigné des compétitions. Donc comment on gère ça avec ce retour à la compétition qui est voulu, bien sûr? C'est des phases, je suppose, qui sont assez... difficile.
Ouais, c'est un tout. Alors c'est vrai, quand on parle d'échec, il y a aussi la blessure qui rentre en jeu. Hein. Moi, quand je me suis planté deux fois aux Jeux Olympiques, c'est parce que deux fois je me suis blessé, une fois l'ischio, une fois au mollet, un peu avant. Donc c'est comme ça, mais en même temps, c'est pas un hasard. Donc c'est comme une blessure, c'est comme un échec en championnat ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on analyse. Faut pas avoir peur d'analyser la blessure. Pourquoi la blessure m'arrive? Et en fonction de la blessure, se reconstruire après. Très rapidement, il y a la phase de déception, et ensuite on se met à se reconstruire, à se fixer des nouveaux objectifs. Donc on est éloigné des sautoirs, mais on se refixe des objectifs, on se reconstruit, et on se dit on va travailler d'autres choses pour être meilleur.
Une dernière question, Claude, avant la pause musicale.
Merci. Est-ce que la perche fait partie de ta vie ou a fait partie de ta vie? C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'il y a lorsqu'il y a un sujet sur Stade 2 ou je ne sais quoi, sur la perche, tu y vas? Est-ce que tu vas au Décastar à Talence? Est-ce que tu vas à un meeting au Perche Elite Tour, ou c'est ça, c'était avant et maintenant tu es sur autre chose?
Non, la perche fait partie de ma vie. Hein. Je suis perchiste maintenant. Ça
perchiste un jour, perchiste toujours.
Ouais, voilà, je pense que c'est un sport passion.
En fait, tu perchistes dans le corps.
Et signe, tu perchistes.
Voilà, en fait, j'arrête le saut à la perche parce que techniquement, c'est trop engageant techniquement et physiquement. Mais quelque part, s'il avait existé de la perche freeride, je pense que j'aurais continué à faire de la perche freeride.
Claude, il est perché, lui.
On va écouter un peu de musique, étant donné qu'on arrive à la mi-temps de ce Sport Campus. Tout de suite, c'est un titre de Elle et la Diane, c'est Paloma, et on revient juste après avec Romain Ménil.
Every light on the shoreline was out. I gazed out into the deep blue as the thunderous waves roared.
Campus Bordeaux, 88.1. 13h35, on est en direct et vous êtes toujours à l'écoute de Sport Campus avec notre invité du jour, Romain Ménil. On va à présent aborder la deuxième partie de l'émission avec toi, Alain.
Oui, on a oublié de dire que tu as même un stade à ton nom, Romain, c'est ça? À Bussy-Saint-Georges.
Oui, une piste d'athlétisme. Ouais,
c'est ça, je voulais le souligner. Ouais, parce que Romain Ménil, c'est la hauteur, mais c'est aussi, il œuvre au ras du sol. Romain Ménil, tu as fait beaucoup de... tu t'es démarqué un petit peu de, après ton... pas qu'après ton après-carrière, parce que ce n'est pas dans ta carrière. Tu es intervenu au niveau des droits de l'homme et enfin, de pas mal de choses, notamment en 2008, où tu vas écrire quelque chose là, pour, mais qui a fait mal à l'époque, mais qui a été bien perçu par le monde sportif. Tu peux nous parler un petit peu de cette histoire-là?
Oui, bah, en 2008, les JO à Pékin, donc évidemment, on s'est posé des questions sur les droits de l'homme et il y avait toujours des difficultés à parler de ces sujets. Et on en a encore parlé en 2022.
Hein, ouais. Toujours d'actualité, oui.
Il y a toujours d'actualité. À chaque Jeux olympiques, ça attire à la fois les convoitises et le sport se veut apolitique, l'olympisme aussi, mais à chaque fois, c'est très politique et très politisé. Et donc, nous, les athlètes, on était entre deux feux. Oui, vous cautionnez les Jeux Olympiques à Pékin, qu'en est-il des droits de l'homme? Et donc, effectivement, moi, je m'étais exprimé, parce que peu d'athlètes osaient s'exprimer. Et moi, c'était le jour de la naissance de mon premier fils, en fait. Il y a un journaliste qui m'a appelé, il m'a posé des questions sur le sujet. Et j'avais pris la parole de manière très honnête et simple, en essayant de trouver des solutions. Donc effectivement, oui, c'était mon premier engagement politique. Et je l'ai fait aussi, pourquoi? Parce que je me suis toujours posé la question, finalement, dans la société, le sport, il sert à quoi? À pas être en bonne santé et à faire que les gens y regardent la télé, finalement, ça sert à quoi? Et donc, l'olympisme sert à quoi? Et donc, j'ai creusé un peu le sujet et ça m'a intéressé de rentrer dans le débat.
T'as pas eu peur pour ta carrière avec ça?
J'ai pas eu peur pour ma carrière, non, du tout. Du tout, parce que j'avais pas de sponsor chinois, déjà.
Mais ça peut aider.
Ça peut aider, mais en revanche, on s'est quand même posé des questions. J'étais pas le seul après à m'exprimer. Il y a Yuan Dinis aussi, le marcheur, qui s'était pas mal exprimé derrière, ensemble. Et on s'est dit, on va sûrement être un peu fiché une fois arrivé là-bas. Mais on n'a rien ressenti, rien vu. Par contre, c'est des jeux très ostentatoires, très extraordinaires. Et moi, je me souviens de deux choses, effectivement, de l'organisation sans faille. Et je me souviens des plaques d'égout, où il y avait marqué « For a better world » sur les plaques d'égout du village olympique.
Qui veut dire ?
Pour un monde meilleur. Ouais.
Non,
mais on a chacun une vision différente.
Moi, j'arrive de la haute Vienne profonde, tu veux parler anglais.
Moi, j'ai l'image de Yao Ming qui porte le drapeau chinois, par exemple, ce genre d'image comme ça. C'est vraiment ce que me remémore les Jeux Olympiques 2008.
Ouais.
C'est cette idée de grandeur, de vouloir aussi montrer d'une certaine manière que la Chine, c'est là en termes de sport.
Mais la Chine veut en profiter évidemment pour montrer sa présence sur le plan international et puis et l'hégémonie qu'elle voulait avoir.
Il est jeune, mais il fait vieux. Ou il est vieux, il fait jeune, hein, notre chroniqueur, parce qu'il est en 2008.
Je me renseigne.
D'accord. Ah.
Après, j'avais vu quelques images. Quand même.
Je l'ai regardé les archives sur YouTube.
En 2009, par contre, Romain, t'as participé à la création du SAMU, parce que tu t'en vas courir nu dans les villes de Paris. Il y a un tas de syncopes pas possible. Pourquoi tu fais ça?
Ah oui, bah là, ça, c'est la suite de l'histoire de tout à l'heure. On a parlé en première partie, effectivement. Donc, j'ai raté les JO 2008. Et derrière, c'est la grande crise des subprimes, donc grande crise économique. Et donc, mon équipementier, Nike, avec laquelle j'avais renégocié à la baisse mon contrat, évidemment, vu que j'avais pas réussi mes derniers Jeux Olympiques. En fait, entre-temps, la crise des subprimes étant arrivée d'un coup, hein, il m'a appelé en disant bah, finalement, notre offre, on la tient pas, t'as pas signé, donc on la maintient pas. Donc, je me suis retrouvé sans sponsor principal. Et donc à poil. Mais surtout, voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis en vente aux enchères, je me suis mis en vente aux enchères. Donc il y a tout un travail comme ça. Et pour en faire la promotion, on a réfléchi avec plusieurs personnes et on s'est dit de faire une vidéo où je me suis promené nu dans Paris. Voilà, complètement nu dans
avec
Paris. Avec la perche. Oui, en courant à la perche et en sautant à la perche. Et donc, on a fait cette promo qui a fait le tour du monde. C'est arrivé quelque part au bon moment. On était au mois d'avril. Et donc là, il y a eu un énorme écho médiatique mondial, hein, que ce soit en Chine ou partout. Le The Naked Pole Vaulter sur SPN aux États-Unis, en Russie. Et c'est une histoire assez folle parce que c'est parti de ce principe. Tiens, il y a peut-être un coup à jouer, un coup marrant à jouer. Et ça a pris des proportions assez phénoménales. Donc c'était à la fois drôle et puis à la fois ça posait des vraies questions sur la manière dont on finance le sport français. Et c'est des questions qui reviennent tous les ans, mine de rien. Moi, je faisais partie des bien lotis, mais il y en a, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça a mis aussi ce débat un peu sur le devant de la scène. Et enfin, moi, ça m'a tellement fait marrer, je me suis tellement fait plaisir là-dedans que derrière, j'étais à nouveau vice-champion du monde. L'été 2009, donc ça m'a permis d'être performant en tant qu'athlète.
Tu aurais peut-être dû sauter nu, non?
J'avais un petit short et un débardeur. Mais...
un ou deux centimètres de plus.
Pour essayer d'aller plus haut.
C'est ça.
Et tous les ans, tu vas en rajouter. Tous les ans, tu vas. Et jusqu'en 2020, où tu, ben là, tu prends tes enfants, tes deux enfants, tu prends ta femme et tu t'en vas. Et pourquoi ?
Oui, alors après, j'ai fini ma carrière en 2012-2013. Donc, j'ai décidé de travailler et de sortir du monde du sport. Donc, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans une entreprise d'informatique, chez Orange. Donc, je suis toujours d'ailleurs salarié. J'ai commencé cette carrière d'ingénieur et j'étais plus du tout dans le monde du sport, mais c'est quelque chose, moi, c'est les valeurs du sport, les valeurs olympiques, j'en ai parlé en 2008, ça me tenait à cœur. Et il y avait une autre chose que j'avais faite aussi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais sûrement fait plusieurs fois le tour de la planète, aller dans différents pays pour sauter, mais finalement j'avais peu vécu des relations avec les gens des pays dans lesquels on est allé. Et donc j'avais ce double manque quelque part. Et pour 2020, je me suis dit, tiens, 4 ans avant les Jeux Olympiques, y a un truc intéressant à faire. Et on s'est dit, on va partir avec nos enfants, faire le tour du monde du sport, le tour du monde de l'olympisme. Donc partir de Bordeaux et de finir à Tokyo. Donc aller jusqu'à Tokyo, jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, et en faisant différents pays pour voir dans chaque pays finalement comment sont vécues les valeurs du sport, en allant rencontrer, interroger à la fois des éducateurs, des sportifs de niveau, des sportifs olympiques, des sportifs de l'extrême. Et donc on a fait plusieurs pays. On a commencé au Brésil, où on a vu plusieurs choses. On a vu les meilleures joueuses de volley du monde en beach volley. Donc sur les plages de Rio, et on est allé aussi dans des favelas voir un centre de badminton dans une favela créée de toutes pièces par un éducateur passionné et qui a monté un centre de badminton dont plusieurs Olympiens sont sortis, dont son fils, au milieu des favelas, où il nous racontait qu'il luttait par le sport et par la raquette de badminton, il luttait contre la...
la délinquance.
La délinquance, oui. Merci Claude, tu étais vraiment mon appui, ma béquille ouais, aujourd'hui.
Oui, hein. Tu es toujours là, Romain.
Voilà, qui luttait contre la délinquance. Et il nous montrait une vidéo qui nous avait marqué. Il montrait des gamins qui avaient des armes et qui faisaient les malins avec des armes sur les réseaux sociaux. Il disait, moi, mon arme, c'est la raquette de badminton. Donc ça nous a marqué, ça a marqué les enfants. Ensuite, on est allé au Pérou, on est allé à Hawaï pour voir la naissance du surf, en fait, qui devenait un nouveau sport olympique à Tokyo. Donc on est allé voir sur le lieu de naissance du surf. On a fait un peu de surf, on a rencontré des personnes qui nous racontaient un peu l'histoire du surf à Hawaï. Et on a continué notre petit bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'on fût rattrapé par le Covid, malheureusement.
Toujours là, le Covid.
Et tu fais ça pourquoi ? Tu fais ça pour t'apporter quelque chose à toi personnellement ou pour crier quelque chose après à la sortie ?
Alors, on a fait ça pour le plaisir, pour l'éducation de nos enfants, mais tout de suite, on avait en tête de faire un reportage. Donc, au début, j'étais allé voir des producteurs, différents producteurs à Bordeaux, à Paris, pour raconter mon projet. Ils ont trouvé mon projet super sympa, mais il y avait le côté famille qui leur faisait bizarre aussi, même si moi l'intérêt c'était d'avoir la vision en fait d'une famille parce qu'on a beaucoup de familles dans le monde donc avoir cette vision à la fois des enfants et des parents et puis en fait c'est là où j'ai appris en fait le métier de producteur où tout doit être très écrit. Et moi, je n'avais pas préparé mon truc. Enfin, je savais qui j'allais voir à peu près dans quel pays, on avait préparé ça, mais c'était un peu une opportunité. Et donc, finalement, je n'ai pas trouvé de producteur pour financer le projet complet, mais j'ai trouvé des petits amis, des amis qui m'ont aidé à me sponsoriser et un journaliste indépendant qui m'a dit « Écoute, moi, ton truc, il me plaît bien, il me fait marrer, donc je veux prendre du temps avec toi, je vais te former. » Je vais t'expliquer le matériel que tu vas acheter. Tu vas faire les rushs, tu m'enverras les rushs et puis on verra ce qu'on pourra en faire. Voilà, donc j'ai fait ça avec Mickaël. Et donc on est parti, on a fait une petite formation en filmant le CC Foot à Bordeaux, l'équipe de France de CC Foot. On a fait ça, on s'est formé là-dessus et ensuite on est parti, on a fait beaucoup de rush. Et puis quand le truc est parti en sucette avec le Covid, Mickaël m'a dit, mais surtout continue à filmer parce que il y a une autre histoire à raconter et peut-être que ça va plaire aussi. Et donc j'ai filmé toute notre histoire du retour au moment où on se posait des questions. En fait, on s'est retrouvé bloqué en Australie à pas savoir comment rentrer, donc on a continué à filmer ça. On a filmé notre retour dans les différents aéroports vides et au retour on a présenté ça à France 3 On a fait un petit teasing à France 3, France 3 Région et France 3 Aquitaine, France 3 Occitanie. Nous avons financé la réalisation et donc ça nous a permis de sortir 10 épisodes de 5 minutes sur notre aventure qui s'appelle Sportif du Monde.
Et ça a aidé parce que tu dis que tu as rencontré les sportifs de bon niveau, qui étaient bien établis. Tu as rencontré aussi, tu dis, dans les favelas, c'est tout ça, des gens pas très fortunés. Est-ce que ça a aidé au niveau des instances politiques ou sportives à faire des choses, ça ?
Ah non, ça n'a pas allé jusque-là. ça n'a pas eu un retentissement si fort. Évidemment, on pensait à beaucoup de choses. En revanche, la vidéo a été vue, a été mise sur le site de France 3 pendant les Jeux Olympiques, sur France TV Sport. Et j'ai eu des retours très positifs, effectivement, de ce mini-reportage un peu familial qui permettait de voir le sport un peu différemment. Regardez, et ça a plutôt bien marché. Donc, n'hésitez pas à aller voir Sportif du Monde sur les plateformes de France 3 ou sur YouTube. Avec les enfants, ça marche bien.
Et vous avez réussi à aller jusqu'à Tokyo ou pas alors ?
Alors non. Justement, ouais. On s'est retrouvé en Australie, on devait faire toute l'Asie, aller jusqu'à Tokyo, en venir par la Jordanie. Donc,
c'était fermé.
Au tiers du village. Voilà, tout était fermé et l'ambassade nous disait, vous les résidents français, là il faut faire un choix, soit vous rentrez le plus tôt possible parce que vous risquez d'être bloqué jusqu'en septembre en Australie. Donc prévoyez les finances. Donc voilà.
Tokyo.
Et donc nous on était au mois d'avril et donc on a décidé de rentrer. Ça n'a pas été facile de trouver un vol, mais on a trouvé un vol pour rentrer.
Et Tokyo a été différé en plus, non ?
Et Tokyo a été décalé d'un an.
Oui.
Ouais. En plus, donc au début, on avait de l'espoir. On s'est dit, on va rester peut-être plus longtemps en Australie, puis on reprendra notre histoire. Et finalement, on l'a arrêté. Et c'est vrai, quand on a su que Tokyo allait être décalé, bon, c'est là où on a été sûr de rentrer.
On sent que vous avez développé une vraie réflexion et un véritable recul par rapport au sport, personnellement, et aussi la place qu'occupe le sport dans le monde. Je voulais savoir quel était votre avis sur la compétition. Est-ce que vous pensez que la compétition, c'est intrinsèque à la pratique sportive ? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la société a un rapport sain à tout ce qui a trait aux compétitions en général ? Parce qu'on sait que ça crée beaucoup de tensions, ça apporte le meilleur comme le pire. Quel est votre regard sur ça ?
Ah, il va nous falloir une heure pour en parler. Non, c'est une excellente question, j'adore. J'adore, effectivement, je me la pose. Compétition, je pense que l'homme a besoin est un compétiteur. L'humain est un compétiteur, il a besoin d'exister, c'est dans notre stratum, on a besoin d'être le meilleur, d'être récompensé. Et donc en tant sportif de niveau, on a ça. Et en même temps, compétition, c'est participer à quelque chose avec. Donc c'est profiter des autres pour être meilleur. Et effectivement, je pense que la société a besoin d'apprendre ça. On prend le sport comme un exutoire, et c'est vrai que je ne suis pas le seul à le dire. Il faut plutôt prendre le sport comme le fait de progresser ensemble grâce à l'adversité, en fait. Et son adversaire devient un compagnon pour être meilleur. Et c'est vrai, comme on dit, il n'y a pas de grand champion sans un grand perdant. Et on l'a vu, à la Coupe du Monde, cette finale extraordinaire qui a mal démarré, fait des... Claude, j'ai besoin d'aide. Des Argentins, Claude.
Oui, des Argentins. Plus grand match de l'histoire.
Voilà, on a plus grand fin. Et avec les Argentins, fait un truc extraordinaire. Donc voilà, donc la compétition avec...
J'étais dans mes pensées parce que je me disais qu'il fallait aborder le sujet suivant qui était Paris 2024. C'est pour ça que je n'ai pas rebondi sur ce que tu...
Oui, parce qu'on ne peut pas inviter Romain Ménil sans parler de Paris 2024. Tu as un rôle dans l'organisation là ?
Alors, j'ai un rôle chez Orange. Orange, on est partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024. On est partenaire premium. Et donc, moi, à ce titre, voilà, j'ai évolué un peu dans mon carrière. Et j'ai deux missions. Une mission d'innovation, où on a un programme d'innovation. Donc là, je travaille sur un programme d'innovation à la fois business pour trouver des nouvelles offres et faire profiter Paris 2024. Donc ça va, c'est plutôt axé sur l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le sport plus compréhensible par l'audio, par d'autres moyens, par des moyens technologiques, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le sport plus accessible pour les personnes aveugles ? On a trouvé des startups extraordinaires qui permettent de suivre un match de foot par le toucher. Et donc on veut mettre, avec Paris 2024, on veut mettre ça... ça en innovation pour les Jeux, et ça va vraiment dans la ligne éditoriale, je dirais, de Paris 2024, les Jeux pour tous, l'inclusion, donc on est vraiment là-dessus. Et après, j'ai une autre mission, alors là, très, très technique, de chef de projet sur des plateformes vidéo qui seront en production pour les Jeux Olympiques à destination des accrédités, dont les athlètes et les médias.
Et on a échangé il n'y a pas très longtemps avec Romain pour voir justement les connexions qu'il pourrait y avoir entre son métier, notamment Orange qui est partenaire premium, ma mission au sein de la DRAGES, la délégation de région académique à la jeunesse, l'engagement et le sport, pour voir comment, quel lien il pourrait y avoir, soit sportif, soit culturel, soit pédagogique, soit technologique en termes d'innovation avec les scolaires, quel que soit l'endroit où ils sont sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc je ne le lâche pas.
Louis.
Justement, vu qu'on arrive à Paris 2024, déjà, est-ce que vous avez un pronostic éventuellement pour savoir qui pourra gagner la grande médaille d'or des sauts à la perche? Et ensuite, ma deuxième question, justement, lorsqu'on arrive dans des grands événements comme ça, comme les Jeux Olympiques, est-ce que ça vous a pas démangé à un moment donné de revenir pour une dernière tentative?
Alors sur les pronostics, c'est sympa, au moins c'est facile. Moi je vois
Duplantis, non gagner.
Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Je pense qu'il y a personne qui lui arrive à la cheville
non.
aujourd'hui.
La compétition, en tout cas, il est tout seul.
Et dans deux ans non plus. Alors après, il peut passer à côté, il peut se blesser,
c'est possible.
Etc. Mais pour l'instant, il est en pleine forme, donc je peux parier facilement mon dos Duplantis. Je vais pas gagner beaucoup d'argent, mais je peux parier dessus.
Au niveau français, il y en a.
Au niveau français, je pense que Renault peut être médaillable.
Encore oui, il va faire une dernière pour Paris. Je pense
que Renault peut être médaillable. Ça reste du sport. Évidemment, à son âge, moi, je suis passé par là. Puis, il va être même plus âgé que moi quand j'ai fini ma carrière. Bon, la moindre petite blessure, c'est compliqué, mais il a les moyens. Et après, on a des jeunes aussi qui poussent, hein, à 5m80, 5m85, qui peuvent faire 90 au JO. Donc, on a des chances de médaille française, hein, clairement.
Tu vois un podium à Paris à 5m85?
Ah ben on peut, oui c'est possible. Ces derniers temps, on a vu des podiums se jouer à 5,90, mais souvent, moi j'ai vu des podiums se jouer à 5,70 à Pékin. Le podium s'est joué à 5,70.
À Pékin.
Oui, à Pékin, mais ça dépend de l'histoire, ce qui s'est passé avant. On a eu des qualifications très compliquées à Pékin, ça a été très long, donc du coup les organismes sont plus fatigués, donc ça se gagne moins haut, et les meilleurs peuvent se planter. C'est l'intérêt du sport, c'est deux sauts la perche à cette particularité aussi. Ouais.
Et puis il y a Marie-Julie. Bonin.
Et puis, alors, c'est vrai qu'on parlait des garçons, mais chez les filles aussi, il y a Marie-Julie Bonin. Effectivement, il faut qu'elle fasse beaucoup de progrès, parce que pour l'instant, son record personnel est bien en dessous du niveau qu'il faut pour être médaillée olympique. Hein, il faut dire les choses, mais elle a encore de grandes marges de progrès. Elle est jeune. Voilà, il ne reste plus beaucoup dedans. Le compte à rebours est lancé, mais on espère aussi beaucoup de MJ. Ouais.
Mais parce qu'elle en avait encore sous les chaussures quand elle réalise son super saut, là, elle en avait encore. Elle était. Alors la reçue, elle nous a expliqué un petit peu ça. Elle était, ça y est, elle avait, pour elle c'était le rôle, quoi. Elle avait passé sa barre et elle a lâché un petit peu la pression. Mais je pense que Julie peut aller plus haut, quoi.
Ouais, ouais clairement.
Oui. Mais quand on regarde certaines vidéos du saut à la perche, on se rend compte que des fois, on voit que vous êtes large, quoi, qu'il y a quelques centimètres. Par exemple, 5,95, peut-être que les 6 mètres étaient pas loin ou des choses comme ça. On a l'impression quand on est spectateur que c'est que quelques centimètres de plus et que quand on analyse le saut, qu'il y a la place, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la place, en fait?
Je dirais même que c'est quelques millimètres. Ouais. Parce que des fois, il y a la place en hauteur. Mais il suffit qu'on effleure un peu la barre en redescendant, elle va trembler.
On est trop près, c'est
et
ça.
Et un millimètre ou pas, elle va trembler, rester ou tomber. Donc, ça se joue vraiment à rien. Et ça, alors des fois, on se dit c'est au hasard, mais ce n'est pas qu'un hasard non plus. Il y a plein de questions qui se posent, hein, entre le rationnel et l'irrationnel sur ce moment-là. Nous, on règle nos poteaux de 500... En fait, là où on plante la perche dans un butoir, et après, on règle la barre en profondeur par rapport à ce butoir, là où on plante la perche. Et on la règle, en général, de 5 cm en 5 cm. On peut la régler de centimètre en centimètre. Et des fois, on effleure la barre à 2 mm. Voilà, il y a un petit des titres qui peuvent se jouer là-dessus.
Je crois que Claude, il a une manifestation justement en rapport à la perche.
Alors, je ne suis absolument pas l'initiateur, hein, mais pour ceux qui aiment la perche, sachez que le samedi 14 janvier au Palais des Sports de Bordeaux à 19h, il y a le Star Perche, qui est donc un circuit national, je crois.
International.
De perche, auquel participe Marie-Julie Bonin et Marion Lotou, qui est dans l'organisation peut-être.
Qui est directrice.
Ouais. Donc, si vous aimez la perche, les perchistes avec un E et avec un E, puisque dans les deux cas, masculin et féminin, mais rendez-vous tous au Palais des Sports.
Voilà, le 14 janvier, c'est très, très festif. Venez voir la musique, ouais. C'est vraiment assez extraordinaire. Ouais. Ça permet de voir ce que c'est que le saut à la perche. Et ceux qui n'auront pas de place pourront le regarder sur Athlé TV, voire France 3, je pense.
Il y a une question que je vais te poser, qu'on a un petit peu passé dessus. Comment t'expliques qu'en France, ça fait des années qu'on a des perchistes de haut niveau? C'est l'école, c'est quoi?
C'est né un peu du passage de la fibre de verre. Où je pense qu'il y a ce côté un peu fou, un peu novateur, qui a lancé les premiers leaders du saut à la perche. Et derrière, c'est une passion qui s'est entretenue, parce que d'avoir des médaillés en grand championnat dans les années 60 a fait que des entraîneurs étaient motivés, donc ils sont allés... chercher les gamins dans les écoles, et donc ils ont créé ça, et ça se perpétue. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une vraie école de saut à la perche en France. Et finalement, il y a trois écoles. Hein. Il y a les États-Unis, la Russie, avec l'URSS à l'époque, et la France. Bon, il y a plein de pays qui font du saut à la perche, mais c'est les trois grandes écoles.
Avec
le champion du monde, les Suédois.
Et suédois, oui, alors c'est un suédo-américain, Mondo Duplantis, et saute pour la Suède. Sa mère est suédoise, son père est américain et il vit aux États-Unis. Donc il est complètement américain du point de vue formation de perche.
Pardon.
Et du coup, est-ce que.
Je vais
reposer ma question. Est-ce que, du coup, vous n'aviez. Avec tous ces événements qui sont arrivés, avec Rio 2016, avec du coup Paris 2024. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie justement de remonter une dernière fois, de
retenter? Alors, quand je vois un perchiste réussir, monter sur un podium, ça me donne vraiment envie de repartir.
Et ça démange pas un peu?
Ah si, ça démange à fond. Mais quand je vois des échecs ou des galères, là, je suis bien content d'avoir arrêté.
Nicolas.
Oui, j'ai une question. Quand on regarde un peu les Jeux Olympiques ou les championnats du monde d'athlétisme, etc., on a l'impression que les perchistes, ils sont un peu dans leur monde à eux, qu'ils ont leur propre compétition, qu'ils sont... Ils font partie de l'équipe de France, mais que c'est quand même un monde particulier. Est-ce que c'est vrai, ça, cette impression qu'on peut avoir quand on regarde le saut à la perche?
Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme le snowboard, peut-être à une époque au niveau du ski. La perche se rapproche d'un sport extrême. Donc, quelque part, on est aussi proche des surfeurs que des athlètes. Et donc, oui, il y a ce petit monde à part. Des fois peut-être trop, donc on apprend peut-être pas assez des autres disciplines, des autres entraîneurs et des autres athlètes d'autres disciplines. Mais ouais, il y a ce petit côté, on passe beaucoup de temps ensemble sur le sautoir en compétition, un peu comme les décathloniens. Et puis il y a ce grain de folie qu'il faut pour être perchiste et qu'il faut pas nécessairement avoir quand on est au 100 mètres. Enfin, c'est pas le même grain de folie en tout cas. Il y a ce côté risque, il y a vraiment ce côté risque qui fait que ça fait une famille un peu plus resserrée, un peu plus différente. Ouais.
Alain, pour conclure.
Non, mais moi je vais conclure en disant un grand merci à Romain, à Claude, nous a fait venir Romain Ménil, parce qu'une heure de radio avec Romain Ménil, je ne pense pas que beaucoup puissent le faire. On peut présenter peut-être l'émission le mercredi prochain, non? Parce qu'elle est un petit peu spéciale. En fait, j'ai réalisé l'interview d'une personne qui n'a rien à voir avec le sport, et c'est Sarah Bromberg, qui est présidente de la LICRA. Et au sein de la LICRA, il y a les sections sport qui luttent contre le racisme, l'antisémitisme. Donc on va diffuser cette interview mercredi prochain avec la venue de Sarah Bromberg le 25 janvier qui viendra nous parler, mais alors là, que du sport dans la LICRA. Voilà.
Campus Bordeaux. Eh bien, on arrive déjà au terme de ce Sport Campus pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute et puis surtout un grand merci à vous, Romain Ménil, d'être venu sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à toi, Claude. On va te retrouver... dans un mois, le mois prochain, vu que tu viens mensuellement. Et puis merci à la fine équipe, à Alain, Louis et Nicolas. C'est à présent la fin.
Merci à toi aussi.
Merci.
Merci.